Que fait la politique à la littérature ? C'est l'heure de Tambouille, la série qui émulsionne engagement et création. De jeunes autrices issues du Master de création littéraire de Paris 8 vous proposent des récits suivis de conversations autour de la ruralité, les transclasses,
le tofu, Mbappé, les élites, les murs de sang, les cafés Paris, la couche.
Dans cet épisode, nous allons écouter Feu Tofu de Louis Vaudeau, une évocation des potentialités de l'écriture fragmentaire et elliptique pour dire le sujet morcelé. Par une série de flashs à la chronologie chamboulée et mêlant souvenir et imaginaire, il explore ses relations intimes et son rapport au monde.
Quand notre père vient nous chercher, il parque sa Toyota à 100 mètres de la maison, pas loin du foyer. Il ne veut pas croiser Carmine, il risquerait d'aboyer comme le chien d'en face qui cogne sa tête contre le portail blanc quand on passe devant. Et puis il klaxonne, sans s'arrêter. Tout le village sait quand il est là. Notre père nous ramène les dimanches après-midi. Quand on passe sous un des ponts qui surplombe l'autoroute, une personne est toujours là, sur le même pont, à faire la même chose. Chaque dimanche, on la voit penchée, elle regarde la route avec des lunettes d'aviateur. Un blouson en cuir brun qui détonne dans les couleurs grises du béton. Elle contemple les voitures passer, ça semble être un spectacle qui la captive. Je suis persuadé qu'elle attend d'avoir le courage de prendre une grande décision, ce moment précis où tout bascule. Chaque fois qu'on passe, j'imagine qu'elle s'écrase sur notre pare-brise et le traverse dans un éclat de verre. Lausanne, 1995. Tous les soirs, après sa journée de travail, et après être venu nous chercher à la garderie, maman nous lit une histoire. Il y a une boîte avec plein de contes sur des feuillets séparés. Chaque soir, on en pioche un au hasard. Alix sur une épaule, moi sur l'autre. Les lettres ne sont pas encore des mots. Les images défilent. Une dame se transforme en âne. Des salières tombent dans la mer. Les personnages deviennent flous à mesure que mes paupières s'alourdissent. Lausanne. 2022. Avec Kirill, là, on est assis dans un recoin de la fête. Il est accoudé sur la table, son museau est presque dans le cendrier. Ses yeux complètement défoncés, mais persuadés. On parle de je sais plus quoi et on est arrivé là. Il dit : moi, je veux devenir Saint Kirill, c'est un cap, une direction, un horizon. Kirill, d'habitude, c'est plutôt le genre à finir debout sur une table emballée dans des costumes à gueuler des poèmes. Un soir, c'était du papier journal qui tenait avec du scotch. Une autre fois, il était habillé en tennisman ou peut-être c'était le même soir, je me souviens plus. Alors le coup du religieux, on s'y attendait pas. J'imagine une messe qu'il donne après une nuit de noces. Peut-être qu'il s'approcherait plus de l'esprit du Christ que tout le diocèse de Rome réuni. Je le vois foncer avec une de ses capes pourpres incrustées d'or à réciter des prières saugrenues. Dans le salon, Aurélien et Lina continuent le karaoké, ils chantent Hasta que toilen los pies, bailamos hasta las diez. Je vais taper du pied avec eux un petit moment et puis ensuite c'est dis quand reviendras-tu, c'est quand même trop nostalgique pour danser alors je retourne me poser. Je retourne me poser vers Kirill, le temps qui passe ne se rattrape plus. Kirill lui, il n'a pas bougé mais ses yeux s'assombrissent, un de ses silences. Ses yeux sont dans le vague, d'abord je crois que c'est la fumée mais non je comprends à quoi il pense. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu prépares tes litanies pour la messe? Il répond, tu sais, avec Aïssa, on a recommencé à se voir. Et là, il me lâche tout. Avec Aïssa, on discute. Mais je ne sais pas quoi dire, elle trouve que j'ai un cœur de pierre. Je ne sais pas comment faire, c'est pas que je sens rien, mais je suis un analphabète. C'est comme si je connaissais que quatre mots, mais je veux bien apprendre, tu sais. Je réponds, tu lui as dit ça, c'est à elle qu'il faut le dire. Il se passe des choses à 5h du matin. Certains, c'est seulement aux heures crépusculaires qu'ils arrivent à parler, à faire péter les digues, à parler pour de vrai. On est tous affalés, penchés les uns vers les autres. Et puis c'est peut-être les chansons mélancoliques, les coups dans le museau ou la fatigue de la nuit, la conversation prend un tournant intense. Et toi Aurélien, c'est comment si tu devais mettre fin à tes jours? Sauter du 8e étage ou la corde? La confiture de cerveau pour les employés de la ville, c'est pas très sympa. Ouais, tu crois qu'on y pense dans ces moments-là? Tous les actes sont des signaux, non? Je sais pas, mais ce serait plutôt des médocs contre tout ça. L'insuline, par exemple, avec l'insuline, tu peux tout mettre en scène, tu t'endors et paf! C'est marrant quand même. C'est marrant, on y pense tous. Le fait de le dire, ça court-circuite, ça devient presque drôle. On se donne des nouveaux surnoms. Kirill Poutre, Louis Falaise. Bon les amis, je suis sec, faut que je rentre. Lina s'approche de moi, elle dit j'ai plus de train, je peux rentrer avec toi. Orbe, 2004. Mes parents, donc ma mère et mon père, se sont séparés il y a plus de 10 ans. Pas longtemps après que je sois né. Depuis, ils vont tout le temps au tribunal. On ne comprend pas vraiment pourquoi. C'est des histoires de pension, de garde ou même pour la commode bleue avec des grands tiroirs sur laquelle il y a l'aquarium. Une nuit, les scalaires ont dévoré les poissons plus petits, c'est-à-dire tous les autres. Le matin, on a vu quelques poissons sur le carrelage. Ils ont réussi à renverser le couvercle en plastique pour s'échapper avec la force qu'on trouve quand il faut fuir. On doit aller témoigner avec Alix. On n'a pas envie. On est obligé. On est convoqué avec un psy du tribunal. Le psy s'appelle Monsieur Fada. Il nous pose des questions. On ne veut pas répondre. Pendant toute la séance, je monte sur la chaise, je retourne ses questions, je lui dis « Mais Monsieur Fada, avec un nom pareil, c'est vous qui avez besoin d'un psy. » Mon arrogance fait rire Alix. D'habitude, elle me gronde quand je fais le débile. Là, je vois dans ses yeux qu'elle est soulagée. Fribourg, 2021. Ce matin, il y a comme un voile sur les choses, tout semble d'une autre couleur. Des pans de ciel sont foncés, presque orange. J'arrive au foyer, les maisons carrées et numérotées, l'odeur de pantoufles chaudes, le badge qui ouvre la porte. Il y a un bug dans le magnétisme. Des fois, quand je passe la main, ça me fait des petits électrochocs. Pas ce matin, c'est un bip inoffensif qui m'accueille. Rouchi, elle arrive en sautillant, joyeuse comme un pinson sous extasie. Ses 13 voltiges serpents serrés qui tournoient autour de son sourire troué par ses 7 ans. Attends, Rouchi. Attends, Rouchi, non, pas la tablette tout de suite. On construit une tour avec des plombs en plastique qui s'emboîtent. Voilà ce qu'on leur promet à ces petits bouts de choux. Des surfaces lisses et orthonormées. Un monde où les choses s'assemblent dans le bruit réconfortant d'un clic. Tout peut s'écrouler d'un revers de main, mais ça n'a pas de conséquences. Il suffit de recommencer. On joue tranquille. Et puis tout à coup, elle prend toutes les pièces de son côté. Elle dit « C'est les miennes, rends-les-moi, t'as triché, j'ai vu !» Son visage se serre, ça devient une boule trop petite pour elle-même. Elle s'énerve des fois fort et vite. Est-ce que c'est Rouchi ou est-ce que c'est le tigre? Elle me repousse d'abord, dégage, t'as triché. Je répète plusieurs fois, c'est pas Rouchi ça, c'est le tigre. Hein. Elle reprend son souffle, le visage entre ses mains, toute tremblante. La réponse que j'ai reçue du message de Naples quelques mois avant surgit dans ma tête. Une réponse de mon père. C'est ça le problème quand on met tout sous le tapis. On lit le message, hop, on le met dans la poche, on continue, non t'inquiète, ça va, j'ai l'habitude. Et puis ça vous saute au cou, comme ça. N'importe quand, comme un flic qui vient mettre fin à une belle fête. D'ailleurs, je sens que c'est serré là-dessous sous le tapis. Il y a des bosses, plus beaucoup de place, ça gigote, ça va sortir. Rouchi émerge de sa propre colère. J'essaye de la rassurer. Tiens un verre d'eau. Être à bout de force, épuisé par les bruits de la ville, délavé par la tachycardie du réel, je comprends. À la limite, lever la voix parce que voilà, pourquoi pas. Déjà là, ils sont terrorisés, ok, déjà là, c'est aller loin. La violence avec des aides qui n'ont pas la mesure de se défendre, ça je ne comprends pas. Dans sa réponse, il s'est arraché un « Je ne suis pas très fier de ma paternité, mais je ne vois pas de quoi tu parles. » Tu hallucines. La violence physique, il n'y en a pas eu depuis longtemps. La dernière fois, l'étincelle du chaos dans ses yeux, je devais avoir 16 ans. J'ai fait face. Je l'ai regardé bien au fond du blanc de l'œil, signifiant « Si c'est ça que tu veux, maintenant je vais pas me laisser faire, je t'attends, je suis là. » Il ne s'est rien passé, il est trop lâche. Un combat, ce serait une forme de relation trop complexe. Avec Hushi, on va regarder par la fenêtre. Maintenant, elle est calme, épuisée. Le ciel est ocre, presque brun. On devine des barres d'immeubles dans cette mélasse, on pourrait croire que c'est des montagnes. À la radio, ils disent qu'un souffle inhabituel a amené du sable du Sahara. C'est peut-être pour ça qu'il refuse d'avouer, il se noierait dans sa honte. Bonne patte que je suis, j'aurais pu accepter des excuses. J'aurais pu essayer de pardonner, de recommencer encore une fois. Que tout s'effondre de nouveau. Par contre, la mauvaise foi, la négation de l'autre jusqu'à ses ressentis les plus profonds, c'est non. Quand je sors du foyer et que je prends le chemin habituel jusqu'à la gare, une couche de poussière recouvre les voitures. Mon doigt glisse sur le capot. Il se noircit. C'est pas de la poussière, c'est du sable. Lausanne, 1993. Quand je suis né, Alix commence à s'occuper d'une poupée. Sa poupée s'appelle Louis Carré. Comme si c'était une version de moi. Elle coince des coussins de son ventre et ses habits pour faire comme si elle attendait un enfant. Naples, 2019. On est à Naples, on y est arrivé à vélo avec Mathia. C'est une des routines que je préfère chaque jour. Les questions qu'on se pose, c'est on prend quel chemin, qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort. Attends, je crame, là il faut que je prenne un peu d'ombre. L'arrivée à Naples dans l'explosion du trafic, les routes pavées de grosses dalles, Mathia dit que ça date de l'époque romaine. C'est un miracle qu'aucune voiture, qu'aucune moto nous rentre dedans, les scooters pullulent comme un nid de Dieppe qu'on a secoué. Ça semble être un art de se faufiler dans des minuscules espaces, de se frôler son crack. On a peut-être juste de la chance. On est sur une terrasse, on vide des négronis, on fume des clubs. Mathia va pisser, je check mes mails par habitude, par addiction pour faire quelque chose. Un message bien acide du père qui attaque Alix, en gros elle fait tout faux, c'est tout sa faute. Plein de gens concernés en copie. Depuis petit j'ai l'habitude de lire en diagonale pour limiter les dégâts. D'abord c'était des lettres de 10 pages qu'il m'envoyait quand on ne se voyait plus, pour me dire à quel point mes notes étaient médiocres. Pas mauvaise, moyenne, comme l'atteste l'étymologie latine média. Chaque mot me désespérait. Chaque mot me désespère. Mes yeux balaient quand même le texte, si au cas où on ne sait jamais, si une révolution se passe, si tout d'un coup un peu d'amour dans la mauvaise foi et la destruction. Pas pour cette fois. L'heure de l'envoi, 1h17, confirme ma vision. Je le vois seul, encore, à pianoter sur son ordinateur, avec une ou deux bouteilles vides à côté de lui. C'est peut-être là sa plus grande violence, celle de toujours rejeter la faute sur nos épaules. Des fois sur elle, des fois sur moi. Ça doit dépendre de la lune ou de la cuvée de vin. Les orages ne suffisent pas. Après, il vient encore nous faire des reproches, déverser du fiel sur nos toits déjà brinque-ballants. Mathia est pris dans une conversation sur la psychiatrie avec un type du bar. Il lui manque du vocabulaire en italien, alors il utilise ses mains pour citer Deleuze, c'est pas très pratique. Du coup, je suis au coin de la table, tranquille, à tapoter sur l'écran de mon téléphone. Je suis bien. La nuit est chaude. Je suis bien, j'ai tous les kilomètres parcourus dans les jambes et dans les yeux, les villages perchés sur les collines, les glaces à la pistache, des moustiques et du soleil plein les yeux. Je suis bien, on est allé faire un saut à la mer cet après-midi, ma peau a gardé le piquant du sel. Je décide de répondre pour défendre Alix, pour lui dire ce que j'en pense de cette histoire. Calmement, j'explique qu'après tout ce qu'il nous a fait, traîner Alix dans la boue parce qu'elle n'a pas répondu à un message, c'est disproportionné. Mettre des gens que ça concerne pas en copie, c'est disproportionné. Et puis dans la nuit humide napolitaine, je prends du recul. Je lui dis que cette fois c'est décidé, je ne reviendrai pas. J'ai 26 ans, déjà épuisé de devoir recoller les morceaux pour qu'on les lance par la fenêtre. Je l'ai souhaité, je l'ai imaginé, mais mon père n'est pas encore mort. Ça m'aurait peut-être empêché de faire un choix. Dans la réalité, j'ai fait un choix. Je lui ai dit, si tu reviens toi, je ne sais pas ce que je ferai. J'aurais en tout cas besoin que tu reconnaisses d'abord, que tu t'excuses ensuite, après on verra. Lausanne 2022. On était timides les deux. Je savais pas trop si on allait finir ensemble ou pas, j'avais envie, mais je voulais pas trop faire le charreau. J'ai dit on peut dormir ensemble si tu veux, mais il y a une chambre de ville, je te prépare le lit. 3 jours après, elle est encore là, dans cette chambre qui n'est pas la mienne. On me l'a prêtée pour les vacances. Depuis le lit, on voit par la fenêtre le soleil orange sanguine. Un gorille sur la cathédrale. Ah non, c'est une gargouille en pierre, je me suis trompé. Contre le mur, calé en 2 poutres, un miroir coupé en triangle. Le reflet de ses hanches qui se galbent sur moi. Je sens l'os de son pubis qui creuse mon bas-ventre. Ça fait presque mal. Ça s'enfonce dans moi comme si elle voulait creuser l'amour dans mon corps à la pelle. Inscrire que ça peut être ça aussi. Je la lèche comme on mange une pêche. Ça dégouline, on s'en met partout. Les barrages ont sauté, on laisse couler, je laisse aller. Elle me demande si je connais le tofu soyeux. Parce que dans la cuisine japonaise, le tofu soyeux, c'est ce qui équilibre les plats. Elle part dans 1 semaine à l'autre bout du monde, peut-être le Chiapas ou un bar à Mendoza. Du coup, on ne se reverra pas tout de suite. Donc la pâte de soja, par son absence de goût, permet de révéler les autres. C'est des grandes plages blanches où on peut se balader. Le tofu, c'est comme les ellipses, ça cimente les briques. C'est ce qui donne le sens au reste, c'est ce qui lie. Il faut laisser des blancs, le vide est plein d'atomes. L'absence, c'est des fois la présence. Une tradition manouche consiste à ôter toutes les traces d'un proche lorsqu'il meurt. Faire disparaître ses affaires. On ne prononce plus le nom des disparus, on fait des périphrases. On dit celui qui aimait se promener le long du canal, celle qui riait fort. C'est en les soustrayant du monde qu'on se rappelle d'eux, par le trou qu'ils laissent. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. À force d'être tout le temps ensemble, la moisissure germe dans les plis, dans la peau des coudes, on devient seul à deux. Les ellipses, ça évite de tomber dans les pièges, celui de la fusion. De l'autre rédempteur, ça donne des contours, parce que dans la fusion, il n'y a justement plus d'altérité. Ça permet aussi d'accepter qu'on a des trous.
On vient d'écouter Feu Tofu de Louis Vaudeau et on va entamer cette conversation avec
Nassera
et Nadid.
Et moi, je suis Emmanuel. Alors Louis, on revient sur ton texte qui a une forme fragmentaire et on se posait quelques questions sur les effets qui étaient attendus à la lecture avec cette forme-là, précisément. Et peut-être que tu peux nous en dire plus aussi sur ce que tu imagines en termes de puissance de l'ellipse. Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça ouvre pour toi ?
Alors les effets de lecture, faudra que vous me dites vous, parce que je sais pas trop comment c'est. Ouais, je sais pas comment c'est reçu ce genre de texte. Après, ce que j'essaye de faire avec ce dispositif, c'est pour éviter en fait un récit, disons, traditionnel. Enfin, après, j'ai rien contre les récits traditionnels, mais j'ai l'impression que une structure narrative préalable, ça empêcherait de dire des choses. Et puis, ça formaterait en fait le propos. Puis moi, j'essaye de dire des choses qui vont pas forcément être, disons, dans une structure narrative, elles auraient pas forcément une place. Et du coup, moi, j'ai envie de dire ça, de dire ça, de dire ça. Donc en fait, c'est pour inclure plein de choses qui sont, pour moi, qui sont quand même liées. Et ensuite, l'ellipse, ça permet aussi, je pense, dans le style, parce que j'écris au présent, et c'est comme des flashs, ça, c'est aussi pour donner cet effet de flash. Disons dans une narration, c'est « je me rappelle, j'étais enfant », il y a quelque chose du passé, puis là en fait les moments d'enfance, ils sont racontés au présent. Donc c'est cette volonté de flash pour avoir une espèce de puissance et bon, pas que, mais c'est vrai que beaucoup de fragments que je choisis d'écrire, c'est des moments quand même assez intenses.
Moi, l'effet que ça me fait, c'est que tu te ressouviens avec nous, en fait. Tu traduis le ressouvenir tel qu'il peut se produire dans la vie de tous les jours, où les éléments ne sont pas mis en récit, justement, et arrivent notamment avec l'histoire de Rouchy et de... Tu vas entrecroiser le récit du père. Et c'est bien un moment qui se passe avec Rouchy qui va réveiller le souvenir, le ressouvenir du père. Et donc je me dis, est-ce que c'est aussi une manière pour toi d'évoquer ça, c'est-à-dire cette complexité du ressouvenir.
Oui, tout à fait. La scène du foyer, c'est aussi pour lier les motifs, un motif de l'enfance, parce que du coup, le narrateur est adulte, s'occupe d'enfants, et en fait, ça fait ressurgir. C'est aussi, pour le coup, c'est un peu un montage, c'est un montage littéraire, c'est pour lier, en fait. C'est pour essayer de faire du liant, parce que... S'il n'y a que des ellipses et des flashs, eh ben, ça manque de liant. Donc il faut quand même essayer par des motifs ou des thèmes qu'il y ait des échos entre les fragments. Et du coup, le fait de faire ressurgir le souvenir, c'est pour enchâsser en fait, un peu ces récits et donner, ouais, c'est ça, donner du liant. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de... Voilà, on va me dire, en fait, si je ne fais pas ce travail de liant, on va me dire, ah super, bah, c'est quoi ton histoire, ça manque de structure. Donc c'est un peu pour ça.
Et justement, pour qu'il y ait écho, il faut qu'il y ait aussi du vide pour que l'écho puisse se faire et résonner. Et donc je me disais, enfin, ces ellipses qu'elle crée aussi, c'est des absences pour en faire apparaître d'autres. Et c'est le motif que tu utilises à la fin dans ce tofu soyeux qui, par son absence de goût, révèle les autres. Et donc voilà, je voulais que tu nous parles aussi de ces pleins, de ces ressouvenirs, mais aussi de ces vides. Et de ce que ça peut créer dans ton texte, en fait, et dans ton écriture.
Ouais, alors c'est clair, l'ellipse, il y a un lien avec l'absence, mais c'est un lien, c'est ce que je dis à la fin, le vide est plein d'atomes, c'est l'absence, mais aussi la présence, parce que j'ai l'impression que l'ellipse, ça permet de dire plus de choses. Le fait de sortir d'un fil narratif, ça veut dire que je peux aller là-bas, essayer de parler de choses qui ne rentreraient pas dans un récit, disons, bien structuré. Et donc ça permet d'un côté de dire plus, mais c'est vrai que ça laisse une place à l'absence, au silence.
Ouais, si je peux rebondir et aussi faire le lien entre ce qui s'est dit, Ce dispositif qui joue sur les flashs et l'ellipse, ça permet, oui, de rendre compte, d'après moi, de comment fonctionne le ressouvenir dont tu parlais, Manu, ou de la mémoire. Et aussi, ce qui est absent, c'est ce qui hante. C'est-à-dire que le passé ne passe pas, on dirait, dans ce texte, où il est énoncé au présent et il vient perturber tout le temps, en fait, le narrateur. C'est-à-dire qu'il est à Naples, il est en train de travailler et l'enfance ressurgit, son enfance ressurgit, le passé ressurgit. Et ça, ça donne des effets vraiment, pour moi, bouleversants. C'est-à-dire que dans un même paragraphe, je peux être au bord des larmes et rire parce qu'il y a une situation dramatique, mais il y a un souvenir drôle qui ressurgit, ou l'inverse. La situation est complètement légère et le traumatisme ou quelque chose de douloureux ressurgit. Et ça, je trouve que ça crée une poétique vraiment forte. Voilà, si... Je ne sais pas si tu conscientises toutes les étapes d'écriture, mais en tout cas, l'effet est celui-ci pour moi, en tout cas. Et c'est peut-être, si tu veux, on peut aller plus loin. Et je pense que peut-être sur l'aspect anecdotique, je sais pas, est-ce que toi tu réfléchis à quel élément, motif utiliser dans ton écriture, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qui va déclencher pour toi l'envie de rendre une anecdote dans ton texte, en fait, c'est quoi l'impulsion au départ?
Tu dis, est-ce que tu parles des motifs qui structurent le texte? Ou parce que tu as parlé des motifs et des anecdotes.
Mais... je sais pas, par exemple, dans la démarche d'écriture, qu'est-ce qui va faire démarrer un fragment, par exemple? Ça va passer par quoi? C'est une sensation, un souvenir
Alors, je pense qu'il y a plusieurs... Je sais pas si je suis totalement conscient, mais je vais essayer d'articuler une réponse. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui sortent parce qu'elles sortent, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont là-dessous et puis ça sort... Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu... Je parle dans le texte de ce tapis, puis du coup, des fois, quand j'écris, je vais un peu soulever le tapis. Puis après, il y a des trucs qui sortent. Après, il y a aussi chaque fragment, on appelle d'autres. Souvent, il y a beaucoup de fragments qui se font écho. Donc souvent, parce que j'ai de la peine... Moi, dans mon écriture, j'ai vraiment de la peine à développer les thèmes longtemps. C'est pour ça aussi que j'écris comme ça, parce que ça me convient. Et voilà, ça, en général, ça dure entre une et deux pages et demie. Et ensuite, je les retravaille beaucoup, mes textes. Et là, je dis, ah, mais en fait, il y a cet élément-là. Je réponds au fragment, en fait. J'essaie de développer un autre moment. Comme là, par exemple, dans le texte, il y a un fragment qui sont dans le désordre. Mais du coup, un fragment où j'écris un mail au père et un autre fragment où il y a sa réponse. Mais ça, des fois, je ne me rends pas compte. Hein. Des fois, c'est trois mois après, je me dis, ah, tiens, ça, je pourrais écrire la réponse. Pour faire un écho.
Par rapport à cette durée dont tu parles, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans l'intensité de ton texte et l'intensité de ta lecture. Il y a beaucoup de phrases qui m'ont frappé, marqué, et il y en a une que j'ai retenue plus particulièrement, c'est tu dis que tu as pris l'habitude de lire en diagonale pour limiter les dégâts. Et je me suis demandé si en fait, le fait d'écrire en fragments, ce ne serait pas aussi une façon d'écrire en diagonale. Comme pour limiter les dégâts aussi d'une certaine façon face à cette intensité dont tu parles qui, en fait, c'est très puissant tout ce que tu déploies. Et c'est une façon de le déployer, c'est d'aller vite et d'être dans la rapidité. C'est pour ça que tu dis, ah, je ne peux pas rester très longtemps dans l'écriture ou un autre. Et nous non plus, on ne peut pas être très longtemps sur une scène ou une autre parce que ce serait comme trop dur de s'arrêter sur quelque chose. Et en fait, ce que ça crée, cette diagonale, en fait, c'est comme si ça permettait une incise. Et l'incise, elle permet la relation entre les choses, mais aussi entre le narrateur et les différentes personnes qu'on croise dans le texte.
Ouais, franchement, t'as dit, j'aurais pas mieux dit, quoi. C'est vrai que cette histoire de tapis, je pense que je peux pas le soulever trop longtemps, donc c'est aussi ça, là. C'est pas possible, en fait, sinon c'est trop intense. Du coup, je suis obligé que ça soit court.
Et éventuellement, j'ai l'impression qu'il y a, dans cette démarche littéraire, il y a aussi une position politique par rapport à comment se raconter. Et je ne sais pas que toi, comment tu envisages ça, c'est-à-dire il y a une dimension sociale, en fait, qui est présente, et un récit qui, sans être dans la dénonciation ou dans le militantisme, qui raconte quelque chose d'une époque et d'une classe sociale. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est présent chez toi.
Alors, on avait parlé de ça dans l'épisode de Céline. On parlait de dissonance cognitive. Et pour moi, je pense que la dissonance cognitive, c'est un peu la condition qu'on est beaucoup à partager actuellement. Et je pense que cette forme fragmentaire, elle veut aussi restituer ça, aussi les contradictions ou les désaccords. Et c'est vrai que souvent, les récits structurés, je trouve qu'ils sont trop structurés. En tout cas, moi, je ne suis pas... Ou ma psyché et tout ça, je trouve qu'on n'est pas aussi bien structuré. Donc déjà ça, et par rapport à la forme politique, c'est parce que oui, ben les formes, elles sont quand même, elles sont politiques. Et c'est vrai que moi, je trouve, bon, quand je dis ça, je dis ça, mais j'adore, je lis beaucoup, et il y a plein de livres que j'adore, mais c'est vrai que je trouve qu'on trouve trop souvent la même recette. Donc voilà, je dis pas que je suis un révolutionnaire avant-gardiste, mais c'est aussi pour essayer de créer des nouveaux récits, parce que ça conditionne en fait notre manière de voir le monde, et... les relations, là aussi à la fin du tofu, il y a du texte, donc du tofu, il y a aussi, je fais un lien entre les ellipses et les relations, c'est que... j'arrive plus à développer.
Et on va peut-être terminer par ton lien avec la musique, en termes de forme, puisque tu as fait un arrangement, enfin en tout cas un ami à toi a fait un arrangement sur le texte, et je sais par ailleurs que tu pratiques aussi... la lecture de textes à voix haute en musique, et donc on voulait voir avec toi comment tu appréhendais cette relation musique et littérature.
Alors déjà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était une période où j'écrivais mais que mes textes restaient dans mon ordinateur, et le fait qu'ils deviennent réels, que je partage avec des gens et qu'ils sortent, en fait, qu'on enregistre des sons, et comme ça me faisait déjà beaucoup de bien. Et c'est aussi plus facile à partager une chanson qu'un text word. Donc ça, je trouve aussi cool que ça se matérialise un peu. Et aussi le fait de le passer en son, disons. Enfin bon, je les scande et des fois mon pote il chante. Souvent je me rends compte aussi du texte. Des fois il y a des bouts qui fonctionnent pas quand je les dis, et ça me permet aussi de les retravailler ou de les développer. Donc c'est aussi une forme de, pour moi, de réécriture du texte.
Tu veux dire qu'en fait tu passes par l'oral à un moment donné pour finaliser tes textes?
Alors ouais, pas tous, parce que je les mets pas tous en son, mais il y a certains bouts, quand on dit « Ah tiens, ça, on pourrait essayer d'enregistrer quelque chose avec ce bout-là », souvent on le retravaille. Mais en général, ce que je retravaille pour la partie musique, je vais la reprendre dans mes textes, parce que je pense qu'on améliore les textes.
Eh bien merci, Louis, pour cette belle conversation, et on se retrouve sur les prochains épisodes.